France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
Et oui, sommes-nous prêts pour la rentrée? Hier, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimé sur la manière dont il allait nous falloir vivre cette rentrée avec des masques, beaucoup de masques. Bonjour Antoine Flahaut.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Alors, on ne sait plus trop où nous en sommes au sujet de cette épidémie. Je vais, par exemple, vous lire deux titres de presse de ce matin. Si je prends les échos, eh bien, c'est plutôt inquiétant puisqu'il est question d'un virus qui flambe à Paris, Madrid et Berlin. Et si je prends le Figaro, eh bien là, cette fois-ci, la version est plus rassurante. Question sur une épidémie qui progresse sans s'aggraver. Qui faut-il croire, Antoine Flahaut, la version rassurante du Figaro ou celle plus inquiétante des échos?
Alors ça dépend un petit peu où vous vous situez. Si vous vous situez au niveau international, au niveau, je sais pas, de l'Amérique latine, on n'est pas dans une situation rassurante pour l'évolution du coronavirus et pour sa virulence. C'est le même virus qui est à Paris, à Madrid ou à Berlin. Et pourtant, en effet, en Europe, on a aujourd'hui plus une épidémie de tests positifs qu'une épidémie de malades. On n'a pas de formes sévères en grand nombre. On n'est pas du tout dans la situation qu'on a pu observer au mois de mars dernier où 20% de ces tests positifs conduisaient au décès en France, hein, alors qu'aujourd'hui on est très inférieur à 1% et donc on n'est pas du tout dans le même type de maladie presque. Il y a une sorte de paradoxe, il semble en effet qu'on ait une augmentation d'un nombre de cas extrêmement bénin parce que en fait ce sont des cas qui sont essentiellement des cas qui surviennent chez des jeunes de moins de 40 ans.
Bah alors dans ce cas-là, je vais vous dire pas encore, puisque ces jeunes qui sont aujourd'hui contaminés par le virus pourraient contaminer des plus âgés ou des personnes plus fragiles, Antoine Flahaut.
Oui, on a vu en Australie, moi j'aime assez bien m'intéresser de très 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 près à l'Australie parce que l'Australie est une île continent, c'est pas la petite Nouvelle-Zélande perdue au milieu du Pacifique qui est aussi évidemment très intéressante et qui est aussi en plein hiver en ce moment, mais qui est plus facile, si je puis dire, à protéger de l'invasion du virus. En revanche, l'Australie qui connaît donc son hiver et qui a un système de santé, un niveau de vie assez proche du nôtre en Europe, a eu à faire face à un redémarrage, à une deuxième vague de son épidémie qui a touché à la fois qui s'est traduite à la fois par une augmentation du nombre de cas, donc de tests positifs, mais aussi une augmentation du nombre de décès. Et en fait, c'est autour de Melbourne que ça s'est passé, et ça s'est passé à partir d'un petit cluster, hein. C'est une famille qui est revenue de l'étranger et qui a été confinée dans un hôtel, mise en quarantaine, et ces quatre personnes ont contaminé toute une région, parce que, évidemment, de proche en proche, les personnels de l'hôtel, il y a eu des petites défaillances de protection, les gens ne portaient pas de masque suffisamment, etc. Les gardes, parce qu'il y avait en plus des gardes pour sécuriser la quarantaine, ces gens étaient tout à fait dans leur quarantaine, mais ils ont contaminé ses proches, ces personnes, et ces personnes ont contaminé, les virus sont arrivés dans des écoles, il y a eu des épidémies, puis dans des bâtiments de la ville, une ville assez densément peuplée, de 5 millions d'habitants, et l'épidémie a tellement flambé qu'un nouveau confinement très strict avec couvre-feu s'est instauré et est toujours en vigueur à Melbourne en ce moment. Donc la possibilité d'une nouvelle vague n'est pas du tout théorique, n'est pas du tout quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose qui est arrivé aujourd'hui. Je pourrais vous reprendre.
Mais alors justement, si on poursuit, pardonnez-moi, je vous ai coupé Antoine Flahaut, si on poursuit cet exemple de Melbourne, est-ce que ces gens contaminés ont été pour certains gravement malades, voire pire?
Alors oui, c'est ça le problème, c'est-à-dire que ces gens contaminés, quand ce sont des gens de moins de 40 ans, ça ne pose pas de problème de santé grave, pas plus, on n'en parlerait pas plus que des rhumes d'été ou des rhumes d'hiver. Mais en revanche, l'histoire que je vous ai racontée a pu être tracée par ce qu'on appelle aujourd'hui l'épidémiologie moléculaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut séquencer le génome du virus et savoir que ils présentent absolument les mêmes caractéristiques, les mêmes petites mutations que celui de la famille dont j'ai parlé. Donc on a pu vraiment voir que c'était toujours le même virus qui était passé de proche en proche dans cette ville de Melbourne. Eh bien, il est allé dans des, vous diriez, des EHPAD, des maisons de retraite, ces maisons de retraite, par ailleurs, souffraient de problèmes un peu sociaux, c'est-à-dire que les gens avaient des contrats précaires et travaillaient sur plusieurs maisons à la fois, avaient une mauvaise couverture sociale. Donc, même quand ils étaient testés positifs, parce que Melbourne avait institué l'État de Victoria avait institué la gratuité du test, la possibilité pour tout le monde, sans aucune difficulté, de se faire tester, mais même positif, ces gens continuaient à travailler, continuaient à infecter d'autres personnes, à infecter des résidents de ces maisons de retraite. Et la mortalité a été assez élevée. Et c'est pour la raison de la mortalité élevée que Melbourne a décidé le reconfinement de sa ville.
Alors aujourd'hui, on lit dans la presse, on découvre une glycine D614G, une glycine qui serait l'un des signes, mais vous allez nous l'expliquer, Antoine Flao, qu'il y aurait peut-être une mutation dans le virus, une mutation qui modifierait l'épidémie de coronavirus. Est-ce que vous souscrivez à cette thèse, Antoine Flao ?
Alors, à la thèse de la mutation, oui, bien sûr, c'est un fait. C'est-à-dire que ce virus, ce coronavirus, qui est un virus à ARN, à un seul brin donc de patrimoine génétique, l'ADN, c'est quand il y a une double hélice, mais quand il y a un seul brin, ça s'appelle l'ARN. Et les virus à ARN, le deuxième brin, quand vous avez une double hélice, ça protège un peu des mutations. Tous les virus à double hélice mutent très peu, alors que les virus à ARN, comme celui de la grippe, par exemple, mutent énormément, mute beaucoup. Donc le coronavirus, qui est à ARN, il mute, ça c'est clair. Mais ces mutations sont à un rythme beaucoup moins élevé que les mutations du virus de la grippe. Déjà, la première chose, c'est que on voit quelques mutations depuis l'émergence de Wuhan, et pour le moment, on n'a jamais vu d'impact de ces mutations, en particulier sur le test PCR ou sur la sérologie. Il y a toujours ce qu'on appelle un seul sérotype. Il y a des virus qui mutent tellement, par exemple, que vous êtes obligé, pour le virus de la grippe, de faire un vaccin chaque année. Ici, on n'est pas dans ce cas de figure pour le moment. Il y a la même immunité, la même immunologie, les mêmes caractéristiques du virus. Alors, est-ce que la mutation d'un des acides aminés que vous mentionnez est une mutation qui est de nature à changer la virulence de ce coronavirus, eh bien c'est une question qui reste aujourd'hui un peu sans réponse. On a trop souvent tendance, dans le passé, dans les épidémies passées, on a eu trop souvent tendance à attribuer aux mutations des caractéristiques qui finalement ne se sont pas révélées si pertinentes que cela. Par exemple, ce virus muté dont vous parlez, qui est encore une fois une donnée factuelle, en effet, la mutation existe et elle porte sur le codon que vous avez mentionné. Ce virus, on le retrouve un peu partout dans le monde, y compris dans des endroits où il y a des foyers mortifères qui entraînent une mortalité élevée. Donc, j'ai pas encore la conviction très certaine que cette mutation apporte ce supplément de contagiosité et cette diminution de virulence comme certains le pensent aujourd'hui, mais c'est pas totalement à exclure.
Alors, toujours dans les différentes hypothèses qui sont aujourd'hui sur la table, Antoine Flao, on dit donc que ce virus aurait muté, ça vous dites que c'est un fait, et que celui-ci serait moins grave, là en revanche vous dites que c'est discutable, et qu'il serait beaucoup plus contagieux, parce qu'on a l'impression que ces différentes lois ou décrets qui ont trait aux masques aujourd'hui en France ne portent pas encore leurs fruits, ou bien sont insuffisantes pour endiguer la propagation de l'épidémie. Là aussi, comment expliquez-vous cela, Antoine Flao ? Est-ce que les masques sont mal mis, pas assez mis ? Est-ce qu'il faut attendre quelques jours pour voir les effets de ces différentes mesures ?
Bon, alors, oui, Tout d'abord, comme j'ai dit, l'augmentation de la contagiosité par cette mutation est discutable aussi. Hein. C'est pas que la diminution de la virulence, même l'augmentation de la contagiosité, parce la contagiosité, elle se mesure par ce fameux R, ce taux de reproduction, et on ne le voit pas changer de façon très signifiante entre les différents pays. Alors là où vous dites quelque chose de tout à fait important, c'est en effet, est-ce que le port du masque montrerait une sorte de défaillance parce que on voit toujours continuer à monter les incidences. Non, je pense pas. Je pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire que le port du masque est mal mis et serait la cause de cette augmentation. Ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder pourquoi les gens sont aujourd'hui contaminés. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est essentiellement dans des populations. Le segment de la population le plus jeune, qui est un segment qui a certainement, avec le déconfinement, profité du répit estival et de fêtes et de contacts, qui étaient probablement peu protégés par le masque. Et de toute façon, il y a aussi beaucoup de contaminations familiales, intrafamiliales, qui sont difficiles à éviter par le port du masque.
Oui.
On met pas le masque chez soi quand même. Hein. Donc, je pense que le port du masque, il est là pour réduire le risque, pour diminuer la probabilité de transmission, justement, en particulier dans les transports publics, en particulier dans les lieux clos où il y a du monde. Et c'est tout cela d'éviter en termes de contamination. Mais on peut pas espérer que le port du masque permette d'éviter toutes les contaminations. Il restera toujours un certain nombre de contaminations assez difficiles à complètement éviter, en particulier ces contaminations familiales ou les contaminations des personnes qui finalement prennent le risque d'avoir des contacts rapprochés avec une autre personne sans mettre son masque.
Et les inquiétudes liées à la rentrée, alors là il y a eu des inquiétudes formulées par certains pédiatres. En France, ce sera bientôt la rentrée des classes. Est-ce qu'il faut redouter la création de foyers de contamination dans les écoles qui pourraient toucher les enfants, les familles, les enseignants, Antoine Flahaut?
Alors, pour les enfants, pour ma part, je n'ai pas une inquiétude d'ordre sanitaire. C'est-à-dire que je pense que, en effet, il y a la possibilité que des enfants au moment de la rentrée, qui seront dans des sortes de lieux open space clos, si je puis dire cela.
Oui, c'est ça, une classe aussi.
Voilà, mais c'est aussi une classe. On peut penser que si ces enfants sont contaminés, ils n'auront pas, pour l'immense majorité, de symptômes sévères. Donc, il n'y a pas un risque sanitaire à cette rentrée des classes, pas plus qu'à laisser les classes ouvertes quand il y a une épidémie de grippe dans le pays. La maladie n'est pas sévère chez l'enfant, dans l'immense majorité des cas. Ensuite, le problème est plutôt un problème, à mon avis, qui est que si jamais on voit aujourd'hui des clusters, des petites épidémies apparaître dans des classes, on aura tendance à les fermer. On fermera les classes, peut-être les écoles. On voit en Allemagne, d'ailleurs, apparaître des cartes de classes fermées, des écoles fermées qui clignotent, parce que c'est pendant une dizaine de jours, puis ça rouvre, etc.
Avec des parents bien heureux qui voient aussi les enfants revenir à la maison.
Et voilà, ça va être extrêmement disruptif en termes de confiance vis-à-vis des autorités sanitaires. On se dira, mais finalement, on contrôle pas la situation, ça se ferme, ça s'ouvre, on peut pas aller travailler, bref. Je pense qu'il y a plus un risque. En plus, c'est assez sensible sur le plan de la société, cette question des foyers dans les écoles. En plus, il y a aussi parfois des instituteurs ou des personnels dans les écoles qui peuvent être à risque et ne pas vouloir travailler dans ce type de conditions. Donc, on comprend bien que la mesure de faire le port du masque obligatoire à l'école, et à mon avis c'est à partir de l'âge de 3 ans, les Coréens le mettent à partir de l'âge de 2 ans, les Chinois de 3 ans, même si cette mesure est peut-être plus difficile à mettre en pratique, mais elle est beaucoup plus pragmatique que l'hypothétique distanciation physique que l'on voudrait instaurer dans des petites classes. Et je pense que cela serait une mesure de nature, d'une part à rassurer les enseignants et les parents, et d'autre part à diminuer ce risque de cluster. Et puis, de toute façon, à partir du moment où des clusters arriveront, là, on aura fait le maximum. Donc, plutôt que de faire cela, à mon avis, en plusieurs étapes et de courir derrière l'épidémie, je pense qu'une mesure préventive qui instaurerait le port du masque à toutes les classes depuis la maternelle serait une mesure qui serait apaisante et qui amènerait de la sérénité dans cette rentrée.
Mais justement, Antoine Flao, vous qui êtes épidémiologiste, on vous sent non pas serein, mais en tout cas, vous n'avez pas l'air d'être extrêmement inquiet au sujet de cette rentrée et on vous en remercie. Est-ce que ça signifie, par exemple, quand on dit qu'il va falloir vivre avec ce virus, que la coexistence, elle pourrait finalement être plus facile qu'on ne le pensait, et que peut-être l'hypothèse d'un vaccin qui semble être réaliste, disent les uns et les autres, va nous permettre bien de revenir à une vie normale, comme avant, quoi.
On a tous hâte d'avoir, comme vous dites, cette vie comme avant. Je pense pas que le port du masque soit une perte de liberté très 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 forte. C'est pas très agréable de porter un masque toute la journée, mais on s'y fait, on s'habitue et on nous avait longtemps seriné que nous étions, nous occidentaux, des réfractaires au port du masque, mais on avait dit des Africains qu'ils étaient des réfractaires à l'usage du préservatif et tout ça s'est avéré faux. Donc je pense que on aura peut-être en effet à vivre un peu différemment pendant quelques mois ou quelques années avant l'arrivée d'un vaccin, si ce vaccin arrive de façon et qu'il est efficace et sûr et qu'on ait envie de se faire vacciner.
Ça fait beaucoup de si au sujet du vaccin,
oui,
chez vous.
Disons qu'aujourd'hui, on n'a pas de vaccin. Donc, vous savez, le sida, il y a eu aussi beaucoup de recherches et puis on n'a toujours pas de vaccin, mais on a quand même complètement changé.
Est-ce qu'on est passé à des essais de phase 3 avec des vaccins contre le sida, Antoine Flao?
Non, c'est exact. Je pense qu'on n'a pas... Le virus, c'est un rétrovirus, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai beaucoup plus d'espoir qu'on ait un vaccin contre le coronavirus, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, on a aujourd'hui le masque de protection, et puis on a aussi le télétravail. Enfin, il y a un certain nombre d'outils qui vont peut-être changer un peu nos vies.
Enfin, tout ça, c'est pas vraiment une vie normale, quand même.
Non.
Le masque, le télétravail. On veut aller au concert, par exemple, voyez, ce genre de choses, la vie, quoi.
Oui. Non, mais vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il est urgent de pouvoir rapidement retrouver une vie normale. Ce que l'on va voir aussi, c'est si justement ce masque empêche ces clusters, ce que l'on a confirmé à l'hôpital. Le masque correctement porté empêche la contamination des personnels.
Correctement porté, ça veut dire quoi? Alors, on a compris qu'il fallait pas qu'il soit en dessous du nez. Est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre pour que celui-ci soit pleinement efficace, Antoine Flao?
Alors oui, mais je crois que tout le monde les connaît assez bien. En fait, moi, je suis pas obsédé par ça. C'est-à-dire que quand dans un bus, quelqu'un met le masque un peu en bavette ou sous le nez, c'est pas un drame affreux. L'important, c'est que toute la population, il le sait très bien, que cette personne sait très bien qu'elle met mal son masque. De temps en temps, c'est pas facile à supporter, on a envie de respirer. N'en faisons surtout pas un énorme problème. Tout le monde sait comment il faut porter correctement un masque. Il faut que ça couvre le nez et la bouche, c'est vrai. On peut se laver les mains de temps en temps. On n'a pas besoin non plus d'avoir un excès de précautions là-dessus. Tout cela, quand toute la communauté le met, et c'est pareil à l'hôpital, vous savez, à l'hôpital aussi, les gens respirent. Hein. Donc, ou parfois vont fumer une cigarette dehors, etc. Bon. Donc je pense que c'est pas quelque chose de... Ce qui est très important, c'est que toute la communauté mette ce masque, et on va peut-être voir que ça empêche totalement des clusters, et qu'on peut aller au concert, et qu'on peut aller au cinéma. Il y a des... quasi-expériences qui se font, le Puy du Fou ou autre, on verra un petit peu s'il y a des clusters qui s'y font, mais sinon, ça va donner envie de pouvoir recommencer ce genre de choses, peut-être avec des précautions qui sont pas aussi agréables que quand on y allait autrefois, et peut-être qu'un jour, on sera enfin débarrassé de tout ça et qu'on pourra...
On l'espère. Merci beaucoup, Antoine Flao, de nous avoir éclairé sur cette rentrée sous le signe de la Covid. Vous êtes épidémiologiste et directeur de l'Institut de Santé Globale de l'Université de Genève.